Chers amis, l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans notre pays nous a amenés à annuler le culte qui était prévu le 22 mars à l'église luthérienne Saint-Jean à Paris, où nous devions célébrer le 100e anniversaire de la cause. Donc nous avons enregistré cette prédication qui avait été préparée pour ce jour-là, et même si nous ne sommes pas en face les uns des autres, permettez-moi de vous saluer chacune et chacun dans le nom de Jésus. Jésus le Christ, qui a été envoyé par Dieu dans le monde pour porter avec nous nos maladies et nos infirmités. Le texte indiqué pour ce dimanche 22 mars dans nos listes œcuméniques est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 9. Le récit de la guérison d'un aveugle né par Jésus. Et je vous propose d'en lire les 11 premiers versets. Que l'Esprit de Dieu éclaire pour nous cette parole. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va te laver au bassin de Siloam ». Ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Lui-même disait « C'est bien moi ». Il lui disait donc « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Et l'homme répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloam ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. » Jusque-là notre lecture. Lorsque Freddy Durleman a convoqué une assemblée de 200 personnes environ à l'église Saint-Jean ce 21 mars 1920, c'était clairement pour créer une œuvre d'évangélisation. Et dès le départ, il a donné à cette œuvre le nom de « La Cause ». On était au sortir de la Première Guerre mondiale, cette guerre si meurtrière. On venait de démobiliser tous les combattants de cette guerre, mais Freddy Durleman était convaincu de l'urgence de remobiliser les chrétiens pour la cause de l'Évangile. Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours, de son discours ce jour-là. Il disait « Beaucoup de nos contemporains se rangeraient sous la bannière de Jésus-Christ si seulement ils connaissaient notre Maître. Mais hélas, quelle ignorance de l'Évangile autour de nous! Elle n'a d'égal que l'ignorance où se trouvent tant de chrétiens à l'égard de cette ignorance-là. Eh bien, de cette ignorance, nous ne voulons pas prendre notre parti, car en vérité, jamais l'occasion n'a été si belle de faire connaître l'Évangile. » Et dans la suite de son message, Freddy Durleman va proposer une organisation quasi militaire pour envoyer les chrétiens non pas sur le champ de bataille, mais sur le champ de mission. Alors certaines expressions martiales qu'il utilise dans son discours nous font un peu sourire aujourd'hui. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque où la guerre était encore cruellement présente dans tous les esprits. Mais il n'empêche que, dès le départ, la cause s'est voulue une œuvre d'évangélisation. Alors ce mot d'évangélisation, il nous pose un peu problème aujourd'hui. Il est devenu suspect. Il laisse entendre que les chrétiens seraient en train de se radicaliser pour devenir des agents de prosélytisme et chercher à convertir les autres. Et dans notre pays ultra-laïque, cette volonté d'évangélisation passe difficilement. On l'assimile à des pressions psychologiques, à de la manipulation mentale, à des abus de faiblesse, à des conversions forcées. Le texte de la guérison de l'aveugle-né que nous venons de lire à l'instant dans l'évangile de Jean peut nous permettre d'y voir un peu plus clair et de comprendre que évangéliser n'est pas endoctriner, embrigader, assujettir, mais au contraire, remettre sur pied, restaurer dans sa dignité, rendre la liberté, guérir. L'évangile de Jean nous rapporte beaucoup moins de miracles que les autres évangiles, que les trois autres évangiles. Mais ces miracles servent, dans l'évangile de Jean, toujours à un enseignement très profond. D'ailleurs, Jean ne parle pas de miracles, mais de signes, ce qui est différent. Chacun de ces épisodes fait sens. Il ouvre à des réalités spirituelles qu'il s'agit de découvrir. Et justement, le texte que nous avons lu à l'instant va nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans l'évangélisation. Et nous allons entrer dans ce texte successivement par trois portes. Le thème de la guérison, le thème de la lumière, et enfin la notion d'œuvre de Dieu qui nous permettra d'évoquer plus particulièrement le travail de la cause. Donc premier de ces thèmes, la guérison de l'aveugle. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? Lui ou ses parents? La question des disciples traduit ce qui était une croyance très répandue. L'infirmité ou la maladie ne peut être qu'une malédiction envoyée par Dieu pour punir des fautes commises contre lui. Parce que dans la mentalité de l'époque, Dieu bénit ceux qui lui obéissent, mais il châtie ceux qui n'observent pas ses commandements. Et nous aussi, lorsque nous disons « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive ?», nous sommes dans cette même logique de la rétribution. Un bébé qui naît infirme, une jeune fille à vélo renversée par une voiture, un non-fumeur qui meurt d'un cancer du poumon. Voilà des événements qui contredisent ces conceptions simplistes qui hantent encore nos esprits. Or, ces croyances sont encore très répandues. En Afrique, par exemple, la maladie est perçue comme le résultat d'un mauvais sort qui a été jeté contre la personne malade. Mauvais sort dont il faut se délier, en quelque sorte. Ou bien chez nous, pendant cette période d'épidémie que nous connaissons, on a tendance à chercher des responsables et on désigne à la vindicte populaire les Chinois à l'origine de la maladie, les Italiens qui l'ont introduite en Europe, les Européens qui risquent de contaminer les États-Unis, le gouvernement qui en fait trop ou pas assez, comme on avait accusé les Juifs au Moyen-Âge d'être à l'origine de la peste. Cette question « pourquoi la maladie ?», elle hante nos esprits, mais elle est aussi le thème principal du livre de Job dans la Bible. Et tous les arguments pour défendre une origine divine de la maladie sont exposés par les amis de Job. Mais la conclusion de ce livre, très important dans la Bible, est que l'homme ne peut pas comprendre l'origine du mal. L'homme ne peut pas comprendre le pourquoi du malheur et il faut se méfier des conceptions trop simplistes. Il n'appartient pas aux créatures que nous sommes d'identifier le péché et ses conséquences, de nous établir en juge, de chercher des responsabilités, des liens de causalité. Ce qui nous est demandé, c'est de regarder ceux qui nous entourent et notamment les personnes malades ou handicapées comme des personnes que Dieu accueille dans son amour, pour lesquelles Dieu veut agir en bien. Et c'est à travers cet aveugle que l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, va se manifester dans le monde. Et c'est le relèvement de Job, à la fin du livre de Job, qui doit être pour nous la leçon à retenir de son histoire. Je voudrais souligner un détail du récit, c'est qu'il n'y a aucun dialogue entre Jésus et l'aveugle, en tout cas au début du chapitre. Jésus ne demande pas à cet homme « veux-tu être guéri ?» ou bien encore moins « est-ce que tu crois que j'ai le pouvoir de te guérir ?» Non. Dans le récit jusqu'à la guérison, l'homme ne prononce aucun mot. Jésus prend totalement l'initiative de cette guérison, sans que personne ne lui demande rien, ni l'aveugle, ni les disciples, ni les amis de l'aveugle, ni les parents de l'aveugle, personne. On ne voit chez cet aveugle aucune conscience de son caractère pécheur, aucun signe de repentance. Contrairement à ce que la théologie traditionnelle nous a longtemps rebâché, ce n'est pas la prise de conscience de notre péché qui est la condition de la grâce de Dieu, du salut et de la guérison qui l'accompagne. Au contraire, c'est la grâce de Dieu offerte de manière inconditionnelle qui nous fait ensuite mesurer notre péché. Maintenant, pourquoi ce geste de la boue avec de la salive appliquée sur les yeux ? L'homme est aveugle. Il est important que Jésus le touche pour manifester sa compassion. La guérison n'est pas un tour de passe-passe ou de magie, mais le fruit d'une relation personnelle où Jésus prend soin de cet aveugle. Et c'est vraiment cette attitude du prendre soin qui caractérise l'action de la cause dans tous les domaines où elle est investie. Les aveugles et les malvoyants, ce qui fait le lien directement avec notre texte, mais aussi les personnes qui souffrent de solitude, les enfants abandonnés, les orphelins, les personnes en recherche spirituelle désireuses d'approfondir leur foi, tous ont droit à des égards. Tous ont droit à des gestes de compassion, à une écoute bienveillante. Dans toutes ces situations, nous posons l'acte de foi et d'espérance que la souffrance qui nous touche en tant qu'être humain ne peut pas nous anéantir et que Dieu, par sa présence, peut nous aider à la surmonter et qu'il peut nous donner une vie qui vaille la peine d'être vécue. Difficile d'imaginer ce que peut ressentir un aveugle qui, tout à coup, retrouve la vue. Subitement, tout un monde de formes et de couleurs qu'il avait seulement imaginé se révèle à lui. On peut faire de ce récit une lecture spirituelle. Est-ce que nous n'avons pas, chacun de nous, des formes d'aveuglement? Notre perception des autres et du monde n'est-elle pas handicapée par des idées reçues, par des déterminismes que nous traînons derrière nous depuis notre enfance? Nous naissons naturellement aveugles aux réalités spirituelles. Et nous avons besoin que le Christ nous éclaire pour nous montrer le chemin vers le Père. La lumière qui est rendue à cet aveugle est une image symbolique du salut et de la vie que Jésus donne à quiconque le reçoit. On peut ici faire un parallèle avec l'image du berger qui sera développée dans le chapitre suivant. Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Abordons maintenant notre deuxième porte d'entrée, ce thème de la lumière. À plusieurs occasions, Jésus a reproché aux responsables religieux de son temps d'être des aveugles. Aveugles parce que, en lisant les Écritures, ils n'y ont trouvé qu'un Dieu justicier, vengeur, qui réclame une pleine obéissance de la part de ses créatures, et malheur à celle de ses créatures qui fait un faux pas. Or, en lisant les mêmes Écritures, Jésus y a vu le visage d'un Dieu bienveillant, lent à la colère, plein de bonté, un Père toujours prêt à pardonner à ses enfants. Or, cet autre visage de Dieu est infiniment libérateur et réconfortant pour tous ceux que le légalisme excluait d'une quelconque légitimité pour s'approcher de Dieu. Regardez dans ce même évangile de Jean, la femme samaritaine, la femme adultère, l'aveugle né, autant de personnes laissées pour compte dans la religion traditionnelle, mais que Jésus accueille, qu'il redresse, à qui il rend une dignité, pour qui il ouvre un nouvel avenir. Voilà pourquoi l'évangile de Jean présente la venue de Jésus dans le monde comme une lumière qui fait irruption dans le monde. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Celui qui suit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà des exemples de paroles que l'on trouve dans cet évangile. on a dans les 12 premiers chapitres de cet évangile de Jean de très nombreuses références à ce thème de la lumière, comme ici dans notre texte. Mais imaginez, Jésus est en train de parler de la lumière à un homme aveugle qui n'a jamais vu la lumière. C'est donc bien que ce terme de lumière est à prendre dans un sens métaphorique. Jésus présente son ministère comme une œuvre de guérison face à toutes les obscurités qui règnent dans notre monde. Il dit au chapitre 12 de ce même évangile, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc ça veut dire que la lumière n'est pas à chercher à l'issue d'une quête initiatique, comme dans les films à suspense ou dans les jeux vidéo. Cette lumière, elle est là, à portée de main, à portée de regard. Elle est offerte à quiconque se tourne vers l'envoyé de Dieu et met en lui sa confiance. Mais de même qu'il y a des taches sur le soleil que les puissants télescopes nous révèlent, il y a aussi dans le texte que nous avons lu des atténuations. Jésus dit au verset 4, « La nuit approche où personne ne peut travailler. » Tout au long du quatrième évangile, on trouve en effet cette dialectique entre lumière et ténèbres, et ici, entre jour et nuit. Peut-être que Jésus parle de lui-même en disant « La nuit approche ». Il pressent cette opposition grandissante qu'il suscite de la part des chefs du peuple, des autorités religieuses. Il devine cette opposition qui va chercher à le réduire au silence, à éteindre la lumière qu'il était venu apporter dans le monde en le clouant sur une croix. Mais Jésus cherche aussi à nous interpeller, nous qui sommes ses disciples. Un peu comme Freddy Durleman l'a fait à son époque, Jésus cherche à nous faire prendre conscience de l'urgence de la situation. Vous avez la possibilité de travailler à l'œuvre de Dieu. Alors, profitez de l'occasion. Ne vous relâchez pas. Vous êtes dans le monde pour témoigner de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Alors, proclamez-la tant que vous le pouvez encore. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, tant qu'il fait jour? Plusieurs pistes d'interprétation. Tant que nous avons encore la liberté, en tant que chrétiens, de témoigner de notre foi dans les sociétés où nous sommes placés. Tant que nos contemporains restent encore réceptifs au message de l'Évangile. Tant qu'ils ne sont pas tous branchés sur des machines qui les distraient 24 heures sur 24. Tant que les désordres sociaux, sanitaires, climatiques ne deviennent pas l'urgence absolue au point que chacun ne se préoccupe plus que de sa propre survie. Tant que les communautés chrétiennes n'ont pas atteint le seuil critique de l'insignifiance et qu'elles sont encore capables d'accueillir ceux qui seront touchés par la grâce de Dieu. Freddy Durleman, dans son discours en 1920, évoque cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce ? Troisième entrée dans notre texte que je vous avais annoncé, le thème de l'œuvre de Dieu. La cause est une œuvre protestante, reconnue d'utilité publique selon les critères de notre République française. Et ce mot « œuvre » revient trois fois dans le passage que nous avons lu. Je vous le rappelle, il faut que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Tout d'abord, je voudrais vous faire remarquer une bizarrerie grammaticale dans ce texte. Jésus ne dit pas « il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé », ce qui serait la tournure normale, mais « il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Ce « nous » renvoie à la communauté des disciples réunis autour de lui, à l'Église primitive qui a réceptionné cet évangile de Jean, mais aussi à nous aujourd'hui qui nous efforçons de suivre le Christ. Jésus nous donne à tous une feuille de route. Il faut accomplir les œuvres de Dieu, lui qui a envoyé Jésus. Pour nous aider à comprendre ce que signifie cette expression « œuvre de Dieu » dans l'évangile de Jean, je voudrais évoquer deux autres versets. Au chapitre 5, « Les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, je les fais, et ce sont elles qui portent à mon sujet le témoignage que le Père m'a envoyé. » Manière de dire, dans la bouche de Jésus, que Dieu œuvre pour le salut des humains, ou qu'il est à l'œuvre pour nous donner une vie en plénitude. Dieu ne provoque pas le malheur des hommes et des femmes, mais il est venu en Jésus-Christ pour se solidariser avec eux et pour les sortir de leur malheur. Un second verset très fort, c'est au chapitre 14. Jésus dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. » Oui, Jésus annonce aux disciples que nous sommes que l'œuvre de Dieu va être démultipliée par l'accroissement numérique de ceux qui auront accueilli Jésus comme l'envoyé de Dieu pour le salut du monde. Nous avons, en tant que chrétiens, la possibilité de manifester dans le monde la présence agissante et bienveillante de Dieu. L'esprit que Dieu a mis en nous est le même esprit qui animait Jésus. Les œuvres que Jésus faisait, nous sommes invités à les faire à sa suite, en étant soutenus par la même foi que la sienne. À savoir, nous ne sommes pas dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Ne nous trompons pas de combat. Pendant longtemps dans nos églises, on a opposé ou cherché à opposer la foi et les œuvres. Il y avait d'un côté les partisans d'une annonce de l'évangile uniquement spirituelle qui cherche le salut des hommes et seulement, et puis ceux qui donnaient priorité à l'action sociale et caritative. Chers amis, jamais, jamais Jésus n'a opéré une telle distinction. Toute sa vie nous le montre. Il se retirait pour prier le Père afin de mieux soulager les infirmités et les maladies de ceux qui venaient à lui pour être guéris. S'il nourrissait les foules avec du pain, c'était selon son expression, avec le pain vivant descendu du ciel. D'ailleurs, un jour où ses disciples lui demandaient « Que faut-il faire pour travailler à l'œuvre de Dieu ?» Jésus a répondu « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. La foi d'abord et l'œuvre de Dieu en même temps. » C'est exactement la conviction qui anime la cause depuis sa création. Freddy Durleman disait il y a 100 ans, « Nous sommes très peu nombreux, alors c'est très simple, tout le monde au travail. » Je suis toujours impressionné, chaque fois que je me déplace pour aller dans les locaux de la cause, de voir le nombre de bénévoles qui se joignent aux différentes actions de la cause pour témoigner de la foi de Jésus-Christ en parole et en acte. Et ils le font en plus dans une fraternité, je dirais, qui dépasse toutes les barrières confessionnelles. Moi, j'y reconnais l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas de l'orgueil que de le dire à l'occasion de ce centenaire de l'œuvre de la cause, mais plutôt une forme de reconnaissance. Oui, Seigneur, ta grâce est la plus forte, ta bonté dure toujours, tes compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors en conclusion, je voudrais sauter jusqu'à la fin du chapitre 9 de l'évangile de Jean et rappeler que cet ancien aveugle, après avoir été longtemps cuisiné par les autorités religieuses, retourne voir Jésus. Et Jésus lui demande « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme ?» Et l'homme dit « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Eh bien, tu le vois, c'est celui qui te parle. Alors l'aveugle dit « Je crois. » Seigneur, et il se prosterne aux pieds de Jésus. Vous voyez qu'il y a eu un long cheminement chez cet homme entre la guérison qu'il a reçue et la foi qu'il confesse à la fin de ce chapitre 9. Eh bien, il me semble que ce doit être pour nous, à la cause, un encouragement pour s'adresser à tous sans aucune distinction. Oui, nous devons continuer à aider, secourir, guérir, éduquer, consoler, nourrir, sur le plan spirituel en tout cas, faire les œuvres du Père, pour qu'un jour, les gens qui ont bénéficié de ce service puissent eux aussi se prosterner devant Jésus et eux aussi dire « Seigneur, je crois ». Que Dieu nous soit en aide.